ADN, agitateur de neurones. Le podcast qui étale sa science. On y est. L'automne est bien arrivé. Les feuilles tombent des arbres, les premières gelées sont là, et petit à petit, les couleurs de l'hiver reviennent. Les grandes stratégies pour lutter contre le froid commencent. Alors, prenons cette première espèce, et là, je commence fort car elle est très étonnante. Ces stratégies sont des plus originales. Cette espèce va tricoter des sortes de pelages lourds et chauds dont elle va se vêtir. De la tête aux pieds, imaginez-vous. Mais encore plus étonnant, grâce à un objet des plus insolites, elle peut prédire lorsque l'automne et l'hiver arrivent. Alors, il me semble que ça s'appelle un calendrier, mais je n'en suis pas si sûre. Et encore une dernière chose, cette espèce fait des feux dans son habitat pour se réchauffer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je m'arrête là, vous l'auriez compris, je parlais de l'espèce humaine.
Je voyais mal un escargot se tricoter une écharpe.
Ça aurait été étonnant. Mais nous savons tous parfaitement comment nous luttons contre le froid. Et ce qui m'intéresse davantage, ce sont les autres espèces animales. Celles qui développent des stratégies pour mieux vivre cette période automnale et hivernale. Celles dont la nature les a munies de caractéristiques bien pratiques pendant les périodes froides ou glaciales. Alors nous allons tous ensemble voyager dans les quatre coins du globe pendant les périodes les plus froides. Commençons vers un paysage immaculé de blanc, de la neige et de la glace à perte de vue, et un silence à perdre la raison. Alors, Antarctique ou Arctique ? Partons pour l'Arctique, le point le plus au nord de notre globe dans cet océan de glace aussi appelé banquise. Et regardez au loin. Vous ne voyez pas un animal qui erre sur cette banquise à la recherche de nourriture ?
Je verrais peut-être un ours.
Exactement, c'est un ours polaire. Sur la banquise, les températures peuvent atteindre moins 50 degrés Celsius. L'ours polaire est donc un très bon candidat pour comprendre sa résistance au froid. Alors si l'on observe attentivement cet ours, on peut voir qu'il a un pelage blanc et en dessous une peau très noire, mais également de toutes petites oreilles. Et ce sont justement ces éléments qui sont importants pour sa survie. Son pelage le protège du froid et retient la chaleur de son corps. Ses petites oreilles et petites extrémités permettent de ne pas avoir trop de perte de chaleur. Seulement, il reste encore beaucoup de mystères sur le pelage de l'ours blanc et de nombreuses théories sont émises sur son rôle exact. Mais qu'on se le dise, il survit très bien au froid. Et même les scientifiques s'accordent à dire que les ours polaires ne craignent pas forcément le froid, mais beaucoup plus la chaleur. Allez, gardons ce même paysage blanc, mais allons au sud. Vraiment au sud. Même à l'opposé de l'Arctique. En Antarctique, nous allons rencontrer nos célèbres manchots empereurs. L'ours polaire et le manchot empereur ne sont pas du tout dans la même niche écologique. Ils ne se rencontrent donc jamais. Alors reprenons. Les manchots empereurs ont de nombreuses capacités anatomiques et physiologiques pour s'adapter au froid de l'Antarctique. Par exemple, leur plumage est très dense et disposé d'une certaine manière afin que les plumes s'imbriquent les unes dans les autres et donnent cet effet coupe-vent. Mais également, sa circulation sanguine est si particulière que les pieds du manchot ne gèlent jamais. Mais la particularité la plus étonnante chez le manchot, c'est la thermorégulation sociale.
Les mâles, exposés aux plus fortes intempéries que donne l'Antarctique en cette période, 200 km/h de vent par rafale, température de moins 30 degrés, se resserrent les uns contre les autres pour économiser l'énergie nécessaire pour subsister et optimiser la durée du jeûne. Cette formation en tortue leur permet, notamment pour ceux qui sont au centre, de se réchauffer mutuellement.
En fait, pour se réchauffer, les manchots empereurs vont se coller les uns les autres. Et les scientifiques ont même pu mesurer la température au sein de cette formation de manchots collés, et elle était de 34 degrés Celsius, contre une température extérieure de moins 35 degrés Celsius.
Ça marche bien comme chauffage.
Ah, plutôt oui. Le prochain et le dernier voyage que l'on fera, les conditions sont un peu moins rudes l'hiver. Nous allons aller dans les forêts des États-Unis et du Canada, mais aussi de l'Alaska. Dans ces forêts, il n'est pas rare de trouver de petites grenouilles, également appelées grenouilles des bois. En hiver, les températures peuvent atteindre moins 16 degrés en Alaska au plus froid. Alors comment ces petits amphibiens peuvent survivre à ces conditions ? Eh bien, elles ont un secret. Elles gèlent.
Ça paraît complètement insensé.
Et je suis complètement d'accord. Ces grenouilles se laissent gelées lorsqu'il fait très froid. En fait, elles vont s'enterrer dans la terre, se laisser geler et suspendre leurs fonctions vitales. Elles ne vont plus respirer et le sang ne va quasiment plus circuler. Et pourtant, dès que les conditions agréables sont revenues, dès que le printemps montre le bout de son nez, ces grenouilles vont revenir à la vie, en fait se décongeler.
C'est un petit peu comme une sorte d'hibernation presque.
Eh ben, presque, mais pourtant ils sont pas au chaud dans un abri, ils vont vraiment rester sous des feuilles et se laisser congeler.
Une vraie technique de survie en fait.
Tout à fait, et en plus elles ne meurent pas. Eh bien tout ça c'est grâce à des substances qu'on dit cryoprotectrices. On a notamment le glycogène qui est libéré dans toutes les cellules de la grenouille lorsque les températures chutent, et il va permettre aux cellules de ne pas s'abîmer lorsqu'elles vont se geler et se décongeler. Il y a aussi de l'urée qui est accumulée et qui protège également ces mêmes cellules. Et aussi une troisième substance qui nous est toujours complètement inconnue. Alors vous, quelle adaptation auriez-vous aimé avoir pour lutter contre le froid ?